Deuxième conférence de la journée du 11 juillet 1986.
Au volcan, vous savez. Je vous ai déjà donné cette image parce qu'elle est très significative. vous intéressez aux volcans, c'est très intéressant. Et quand on me parlait des spécialistes des volcans, c'est très intéressant. Je me souviens avoir été prêché au Rwanda, peu de temps après l'éruption de ce volcan, ou dans le Zaïre. Et comme c'était pas très loin, c'était entre deux retraites, on m'a dit, qu'est-ce qui vous intéresse ? Là, j'ai dit, d'aller voir les laves du volcan, et si je peux remonter jusqu'au volcan, jusqu'au cratère. Remarque, regardez, c'est drôle, comme intérêt. C'était très intéressant de voir ça. D'abord d'avoir des détails précis sur l'île, comment ça s'était passé. Alors on m'a dit cette chose curieuse, je ne savais pas. Les spécialistes savent sûrement, mais je n'étais pas spécialiste de la matière. C'est que ce volcan, bien certains temps, le surveillait. La mère de famille surveillait la passion de son fils. Surveillait comme une mère de famille. Prudemment. Alors, les spécialistes étaient installés en haut du cratère pour vérifier, pour surveiller. Ils ne dormaient pas là, c'est évident, mais ils surveillaient. Ça a craché la lave sur le côté. Ils étaient en haut. C'est admirable, ça. C'est comme l'exemple de ce que c'est que la passion. On surveille, puis les passions, ça éclate de temps en temps. C'est un terrain volcanique. Plus ou moins volcanique. Mais c'est un terrain volcanique, les passions. Saint-Jean, fils du tonnerre, était très volcanique. Je ne dis pas que tous les frères de la communauté Saint-Jean sont volcaniques. Parce que ce ne serait pas correct. Mais c'est bien d'être volcanique. Ça prend quoi du sang dans les veines. Alors, il ne faut pas le cultiver. C'est donné par nature. Mais il faut essayer de le canaliser. Et de bien le canaliser. Non pas en le moralisant. Profite dans le sanctifiant. Les passions demandent d'être sanctifiées. Et alors, en les sanctifiant, on comprend que les passions, ça peut jaillir de droite et de gauche. On ne sait jamais comment. Et on ne peut jamais savoir comment. C'est le propre d'un terrain volcanique. Il faut être très attentif à ça. Il faut se connaître. Alors, il faut surveiller le volcan. Est en nous, qu'on connaît plus ou moins bien, un volcan du concupiscible et de l'irascible. Vous savez bien, je vous l'ai déjà dit, saint Thomas est le grand expert des passions. Vous ne trouverez un traité des passions jamais aussi bien fait que dans saint Thomas. Un des psychanalystes, quand ils étaient de bonne humeur, et suffisamment réceptif. Je leur faisais le traité des passions de Saint-Thomas. Ils m'ont regardé et m'ont dit, au Moyen-Âge, on disait déjà ça. Oui, oui. Le traité des passions, c'est bien plus fin que toutes les analyses des passions qu'on a aujourd'hui. C'est pas de la même manière. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Saint-Thomas a été très attentif aux passions, le traité des passions de Saint-Thomas. C'est peut-être le moyen par lequel on peut entrer plus facilement dans saint Thomas. Parce qu'on voit que saint Thomas est passionnant. C'est vrai, c'est un terrain volcanique, saint Thomas. C'est pas du tout l'homme qui vous donne des définitions et puis c'est tout fait. Ça, c'est les professeurs qui enseignent saint Thomas. Mais saint Thomas, c'est un terrain volcanique extraordinaire. Saint Thomas a étudié les passions pour mieux connaître l'humanité du Christ. Je connais bien le grand spécialiste des manuscrits de saint Thomas. C'est un dominicain que j'aime beaucoup, qui a étudié tous les manuscrits de saint Thomas. Parce que vous savez qu'à la fin de sa vie, saint Thomas dictait. Et dictait à plusieurs en même temps. Tandis qu'au début de sa vie, c'était petit homme à Daguin. Il écrivait ses cours comme les autres. Et alors, on a ces manuscrits. Du reste, il avait une écriture illisible. C'était l'illisible. blessée. Satan a écrit biffé. Il écrit biffé. Pour arriver à découvrir qu'est-ce que c'est que la passion dans le Christ. Je trouve ça très beau. Alors qu'il y avait des théologiens qui disaient non, parlons pas de passion dans le Christ. Et lui dit non, la passion est chose humaine. Et donc elle est dans le Christ, elle est présente dans le Christ. Alors les passions sont parfaitement sanctifiées. Elles sont prises de l'intérieur au service d'un amour très grand. Mais Jésus était plus passionné que n'importe quel autre homme. Mais passionné de cette manière humaine. Pourquoi dit-on que dans les actes humains, la volonté doit être soumise à l'intelligence? Alors comprenons bien. L'amour, c'est ce qu'il y a de premier et d'ultime, l'alpha et l'oméga, dans nos activités humaines. L'instinct est une forme d'amour. Le premier instinct, c'est l'instinct de l'enfant pour le lait, pour la nourriture. Premier instinct, c'est celui-là. Ça, sûrement. Et le dernier instinct, l'ultime, ou plus exactement, ce ne sera pas l'instinct, ce sera un amour divin pour un chrétien. Le cri de soif du Christ. Le dernier rappel d'amour. L'amour enveloppe toute notre vie. L'intelligence, une intelligence bien faite, je dis intelligence, je ne dis pas raison. La raison se développe en dehors de l'amour, comme la logique. Et l'intelligence, la perspicacité de l'intelligence, est au service du développement de l'amour. Et permet à l'amour passionnel de ne pas dominer, permet à l'imaginaire de ne pas engloutir massivement l'éveil de l'intelligence, de l'amour spirituel, de l'appétit spirituel, l'appétit volontaire. L'intelligence est au service de l'amour. Alors l'intelligence est nécessaire pour pouvoir aimer. Il faut connaître pour aimer. Mais l'amour va plus loin que la connaissance. Et notre amour n'est pas déterminé par notre connaissance. Ça, c'est une chose très difficile à bien comprendre philosophiquement, mais c'est très important. Évidemment, si on est cartésien, l'intelligence mesure l'amour. Ça, c'est Descartes. Mais si on est réaliste, parce que dans toutes les idéologies, c'est ce qui se passe, les idéologies sont au-dessus de tout. Si on est réaliste, on doit reconnaître qu'il y a dans l'appétit spirituel quelque chose qui domine toutes nos connaissances. Toutes nos connaissances rationnelles et toutes nos connaissances intellectuelles. Parce que c'est le bien connu qui attire. Je suis attiré par le bien spirituel, c'est-à-dire la personne. C'est une personne qui m'attire. Alors, elle m'attire. Il faut la connaître, je sais qu'elle existe. Et quand je cherche pourquoi elle m'attire, quand vous êtes attiré par quelqu'un, d'une façon profonde, quand vous sentez quelque chose de plus qu'une sympathie, d'un véritable amour, d'où ça vient, c'est cette personne qui vous attire. Alors, vous dites, ah oui, elle a des yeux admirables, je ne sais pas à cause de ça. Ça, vous pouvez connaître la couleur de ses yeux. Mais ce n'est pas ça qui spécifie l'amour. C'est la personne elle-même, dans ce qu'elle a de plus profond. C'est très mystérieux, ça. C'est très, très mystérieux. C'est le bien. La personne entend qu'elle est mon bien. soit connu. Mais ce n'est pas le bien en tant que connu qui détermine l'amour. C'est le bien en lui-même qui attire, qui spécifie et qui attire. La connaissance est une condition sine qua non, mais celle n'est pas une détermination, une spécification. De sorte que l'amour enveloppe tout. Un acte est bon s'il est mesuré par la règle de la raison et de la loi divine. Sinon, il est mauvais. Voyez, c'est très curieux, cette remarque que vous faites là, qu'on fait là. Un acte est bon s'il est mesuré par la règle de la raison. Vous croyez que c'est ça qui fait un acte bon? C'est ça qui fait qu'un acte n'est pas déréglé, mais il est bon, parce que vous êtes attiré par le bien. C'est tout à fait autre chose, pas. Ça c'est le point de vue prudentiel. Le point de vue prudentiel dit un acte qui est au-delà de la règle de raison est déraisonnable. Oui, condition sine qua non, mais pas la spécification. Un acte est bon, la loi divine. Mais la loi divine, elle est là pour canaliser, orienter. Vous voyez, dans le temps, on disait de temps en temps, Rosette religieuse est exemplaire. Elle vit toute la règle. Ce religieux, il est magnifique. Il est une régularité parfaite. Présent, et ainsi de suite. Oui, c'est une condition sine qua non pour être un bon religieux. Mais c'est pas ça qui fait la qualité de la vie. Autrement, vous mettez la méthode avant le bien. Et vous êtes positiviste. Et on glisse très vite vers ce positivisme. C'est évidemment, c'est plus facile, c'est beaucoup plus facile à vérifier. On voit quelqu'un qui ne suit pas la règle, donc il est un mauvais religieux. Mais non, attention, il ne suit pas la règle, peut-être parce qu'il est fatigué, il a mal à l'estomac. Il ne suit pas la règle parce qu'il est estropié. Il ne suit pas la règle pour des quantités de raisons, quelquefois. Et dans son cœur, Dieu regarde les intentions. Or, les intentions regardent la fin. Et la fin, c'est le bien aimé pour lui-même. La qualité d'un acte humain, c'est ce qui m'unit au bien qui est ma fin. Et le bien, c'est la personne. Je crois que c'est très important de comprendre ça. Autrement, vous tombez dans un rationalisme et donc un positivisme. Est-ce de l'orgueil? Décidément, on tourne toujours, c'est pas étonnant. Vous voyez, on tourne toujours autour amour-orgueil. On aurait pu intituler ça amour-orgueil. Mais c'est vrai, l'orgueil, c'est ce qui empêche l'amour de se développer pleinement. Et l'amour seul me bonifie et me sanctifie. Est-ce de l'orgueil ou est-ce que les actes humains procèdent de l'homme, sont des réalités inférieures à l'homme, faisant appel au primat de l'intelligence sur la volonté? Il vaut mieux connaître les réalités inférieures que les aimer. Justement, quand il s'agit des réalités inférieures, il vaut mieux les connaître que les aimer. Parce que les réalités inférieures ne peuvent pas être mon bien. Le petit chat. Le petit chat ne peut pas finaliser votre vie. Impossible. Ou l'éléphant, si vous aimez mieux. Ça ne peut pas finaliser votre vie. Vous pouvez vous s'asseoir dessus, mais pas plus. Qu'est-ce qui finalise votre vie? C'est le bien. C'est une personne humaine. Et c'est Dieu. Là, je relis parce que... Est-ce de l'orgueil ou est-ce que les actes humains procèdent de l'homme? Sont des réalités inférieures à l'homme. Sont des réalités inférieures à l'homme faisant appel au primat de l'intelligence sur la volonté. Comprenons bien, ça c'est une règle de vie extrêmement importante, parce que je crois que ça c'est très très important, c'est un axe pour notre propre éducation. Les réalités qui sont supérieures à nous, qui sont notre bien et qui peuvent nous finaliser, Dieu et la personne humaine. Il vaut mieux les aimer. Les aimer est plus grand que de les connaître. Donc c'est bien ce que je viens de vous dire. Quand il s'agit d'un bien qui peut être ma fin, donc vraiment de mon bien, l'amour est au-delà de la connaissance. Ça, je reste rationaliste et positiviste. Je n'ai pas encore atteint ce qu'il y a de vraiment humain. Les réalités qui sont inférieures à moi, inférieures à l'homme, l'éléphant, le petit chat, le petit chien, pas l'homme, pas le serviteur. On traite des serviteurs comme de bons chiens ou de bons chats. Alors à ce moment-là, il vaut mieux les connaître que les aimer. Parce qu'en les connaissant, on les tient. Ça, c'est faux. Parce qu'alors, on ramène l'homme à un animal, à un esclave. Ça, on n'a pas le droit. Mais les réalités qui sont inférieures à l'homme, il vaut mieux les connaître que les aimer. Alors, l'orgueil, c'est très vrai, l'orgueil consisterait, par rapport aux réalités qui sont supérieures à moi, Dieu et la personne humaine, de dire qu'il vaut mieux les connaître que les aimer. Ça, c'est orgueil. Ça, c'est le signe de l'orgueil. Dire j'aime mieux connaître Dieu que de l'aimer. Pourquoi dites-vous ça? Parce que quand vous connaissez, vous n'êtes pas en état de dépendance. Vous n'adorez pas. L'adoration est un acte d'amour. Ce n'est pas un acte de connaissance. La connaissance est nécessaire pour adorer. Mais l'adoration n'est pas déterminée par la connaissance que j'ai de Dieu. Sent bien. Il faut quitter la mollesse du lit pour avoir la dureté du bois de la croix. C'est bien, c'est évident que c'est un acte volontaire, ça. Vous dépassez votre sensibilité pour atteindre quelque chose de volontaire. La volonté est premièrement affective. Parce qu'elle me fait aimer un bien supérieur. Elle est en second lieu effective. Parce qu'il s'agit d'atteindre ce bien qui m'échappe. Donc elle est effective à l'égard des moyens. À l'égard des moyens. Tandis qu'elle est affective à l'égard de la fin. À l'égard du bien fin. À l'égard des moyens. Là, il faut prendre la distinction. Fin et moyen. La fin qu'on aime, c'est un bien qu'on aime pour soi, un ami. L'ami me finalise. Un ami, je ne l'utilise pas. La personne humaine, je l'aime. Pour elle-même. Tandis qu'un moyen, je l'utilise. Vous pouvez aimer une belle auto parce qu'elle vous séduit. Mais c'est un amour très secondaire. À moins que vous soyez amoureux des autos. Alors à ce moment-là, c'est quelque chose de particulier. Mais normalement, on aime une auto, une voiture, parce qu'elle est utile. Confortable, vitesse, il y a d'autres choses. Et chacun, selon des critères particuliers. Mais vous ne pouvez pas aimer une personne parce qu'elle est utile. On n'a pas le droit d'utiliser une personne humaine comme un outil. Personne humaine n'est jamais un moyen. Elle est aimée pour elle-même. Autrement, je la respecte pas. C'est un bien absolu. C'est un bien qui est capable de me finaliser. Je ne dis pas que toutes les personnes humaines me finalisent. Il y a des quantités de personnes humaines que je passe. Mais j'essaie que la personne humaine, je l'aime comme un bien. C'est ça l'amour d'amitié. Et dans la charité chrétienne, tous ceux que je rencontre, je dois les aimer d'un amour d'amitié. Et donc je dois tous les respecter. C'est ça l'attitude chrétienne, c'est de respecter le prochain et de l'aimer. Et de l'aimer comme une personne et ne pas l'utiliser. Donc, c'est, je crois, de cette manière-là, quand j'utilise quelque chose, c'est très vrai, ce n'est plus mon bien au sens absolu. Donc, à ce moment-là, du côté de l'efficacité, l'intelligence reprend tous ses droits. Un moyen, je dois le connaître avant d'utiliser. Autrement, je risque de me casser la tête. Un moyen, je dois l'éprouver par la connaissance. Tandis que je n'ai jamais le droit d'éprouver une personne pour savoir son degré de résistance. Comme on éprouve un métal, comme on éprouve un outil, jamais le droit, parce que je la respecte. Un moyen, vous avez le droit de l'éprouver, parce que la connaissance domine. L'obéissance est-elle la soumission de la volonté affective à laquelle est soumise l'intelligence qui adhère à ce qui est supérieur? Alors ça, c'est tout le problème de l'obéissance. Évidemment, ça fait partie du bien. L'obéissance, on se soumet à une autorité et non pas un pouvoir. C'est toujours bien la distinction entre les deux. Le démon a beaucoup de pouvoir et non découvrir sa propre finalité. Quelqu'un qui a découvert sa propre finalité dans l'amitié et la contemplation obéit très peu. Très peu. Parce qu'il a découvert sa finalité. La finalité nous libère. Parce que obéissance aux lois politiques pour payer ses impôts, c'est quelquefois très lourd, mais c'est une obéissance qu'on fait avec beaucoup d'intelligence pour que ce soit toujours très strict. Vous êtes très intelligent pour payer ses impôts. C'est pas la volonté affective. Parce que les impôts, c'est un moyen, c'est très bien, il faut. L'obéissance au rouge et au vert, c'est une obéissance aussi qu'il faut respecter à cause du voisin. Et puis le voisin risque d'entrer chez nous. Et puis il y a la peur du gendarme. Et ainsi de suite, il n'y a pas grand chose comme obéissance. L'obéissance reprend une importance énorme dans l'attitude chrétienne. Alors c'est l'obéissance chrétienne. C'est tout à fait différent. Ça, alors ça prend une importance très grande dans la vie religieuse. Mais c'est le propre de la vie religieuse. La vie religieuse est structurée par l'obéissance. Ça ne veut pas dire que la vie religieuse fait des êtres menus. Des êtres qui sont toujours sous la tutelle de quelqu'un. C'est vrai que la vie religieuse nous met tout. Toujours sous la tutelle d'une autorité. Mais cette autorité, c'est le Christ. Et parce que c'est le Christ, cette tutelle nous permet d'atteindre la contemplation. La vie religieuse n'est intelligente que pour la contemplation. Pour tout le reste, pour notre activité, les supérieurs comprennent. Ordinairement, ils comprennent. Mais la vie religieuse comme telle, c'est pour la contemplation. La vie religieuse doit nous aider pour la vie active, pour notre vie apostolique. Mais là, elle peut très bien, dans certains cas, arrêter. Être un empêchement. C'est possible. Jamais pour la vie contemplative. Pour la contemplation qui est en nous. Mais c'est très important de comprendre que l'obéissance religieuse, c'est un type tout à fait différent qui ne peut se comprendre que dans la foi. Ça ne peut pas se comprendre au niveau de l'intelligence. Au niveau de l'intelligence, l'obéissance religieuse, c'est toujours folie et scandale. Parce que c'est la croix. Et donc pour notre intelligence humaine, pour notre prudence humaine, c'est folie et scandale. Il faut le savoir. Et c'est pour un bien supérieur. C'est pour un bien supérieur qui est d'être plus lié à la croix du Christ. Et donc d'entrer plus profondément dans la contemplation. C'est pour ça que pour saint Thomas, l'obéissance ne peut se justifier au sens propre, l'obéissance religieuse, que par rapport au mystère de la croix du Christ et par rapport à la contemplation. Une intelligence orgueilleuse n'est-elle pas une intelligence oui, une intelligence directement commandée par le primat de l'action sur la contemplation. L'intelligence orgueilleuse, c'est l'intelligence qui veut dominer. Et donc, c'est une intelligence qui ne veut pas contempler. Elle veut dominer. Donc, c'est toujours du côté actif. Je m'arrête par rapport aux questions et puis je continue parce que je veux à tout prix terminer avec vous l'article 3. Donc, l'article 3 dans le Démalo, c'est la question de la cause du mal. Matin, saint Thomas commence par écrire. c'est un mot quand même très important en philosophie. En latin, quiditas. Alors, c'est un petit mot familier. Vous savez, quand les mots sont trop longs, on les simplifie. Dans les familles, c'est comme ça que ça se fait. Alors, quiditas, simplifie. Ce qui, dans la réalité, peut être pour bien montrer que c'est deux choses différentes, l'intelligibilité et l'être, on va inventer un mot. En inventant un mot, vous voyez, on objective. On objective. On regarde le mot. Alors on va inventer ce mot, Totiainainain. Totiainainain, on pourrait dire que c'est l'intelligence qui va, par rapport à ce qui est, par rapport à la substance, par rapport aux réalités, à la res, on peut mettre res ici, par rapport à la réalité, ce qu'elle est capable de saisir. Le tien, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette réalité? Et le tien, c'est quelque chose qui demeure, l'intelligence fondamentale de la réalité, l'intelligence fondamentale et essentielle de la réalité, on l'exprime par le Totiainainain, qui va devenir l'acuité. C'est pour ça que très facilement, les modernes diront acuité égale essence. Et saint Thomas aussi le dira. L'acuité, c'est l'essence. Je ne savais pas très bien ce que c'est que l'essence. Surtout aujourd'hui, hein, surtout aujourd'hui. L'essence, hein. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est devenu commercial. Pas l'acuité. L'intelligibilité foncière et radicale d'une chose. Ce qu'elle est. Au-delà des choses périssables. Au-delà des choses qui changent. Pour moi, quelle est ma quiddité? Quelle est votre quiddité? Qu'est-ce que vous êtes fondamentalement? Votre quiddité, c'est votre âme. C'est l'âme, la quiddité de ce que vous êtes. C'est savoir ce qu'est votre âme. Tant que je ne sais pas ce que c'est que votre âme et mon âme, je ne me connais pas. Je ne sais pas ce que je suis. Je n'assemble large, je n'ai pas un pied, un cheveu, un œil. Qu'est-ce que je suis? Je ne peux pas m'identifier à mon œil. Je ne peux pas m'identifier à mon nez. Je ne peux pas m'identifier à mon pied. Tandis que l'acuité, c'est ce que je suis, fondamentalement et en premier lieu. Donc, c'est ce qui me définit en premier lieu. Totiainainain.
Cependant que chaque, d'une certaine manière, que le mal
impossible. Impossible. Le mal en soi n'a pas de quidité et pourtant il existe. C'est très curieux, ça. Vous voyez, pour le mal, l'existence est avant l'essence. Cette fameuse phrase des existentialistes. L'existence est avant l'essence. Elle est tellement avant qu'il n'y a pas d'essence. Il n'y a pas de quidité. Jugez bien, vous ne trouverez pas la quidité du mal. Si vous le trouvez, vous m'écrirez. Ça vaut la peine. Et cherchez bien, je vous répondrai. Pour vous montrer que vous êtes mis le doigt dans l'œil, et à ce moment-là, vous avez vu des 36 000 pas. Pas la peine de le faire comme expérience. En effet, il est manifeste, puisque le mal n'est pas quelque chose existant par soi, mais qu'il est quelque chose qui inerre, comme une privation, laquelle est l'absence de ce qui est normalement fait pour inérer et qui n'inère pas. Il est manifeste que être mal, donc une réalité mauvaise, n'inère pas naturellement à celui auquel il appartient. En effet, si un certain manque appartient par nature à une certaine réalité, on ne peut pas dire que ce soit le mal ou cette réalité. Si une réalité, par nature, n'a qu'un bras, n'a qu'une patte, si cette réalité n'en a qu'une par nature, ce n'est pas un manque d'en avoir qu'un. Donc on ne peut pas dire que le mal affecte naturellement quelqu'un. Non, c'est faux de dire ça. Ce serait prétendre que le mal est quelque chose de premier. Le mal n'est pas quelque chose de premier. Ainsi, ce n'est pas un mal pour l'homme que ne pas avoir d'aile. On peut rêver d'être un oiseau. De temps en temps, on l'est. Mais métaphoriquement, ne pas avoir d'aile, mais c'est pas un mal. Donc, ni pour la pierre que de ne pas avoir la vue, parce que cela est selon la nature. Or, tout être qui n'appartient pas naturellement à quelque chose doit avoir une certaine cause. Par exemple, l'eau ne serait pas chaude sans une cause. Il reste donc que tout mal a une certaine cause, mais par accident. C'est toujours par accident. Vous ne pouvez pas chercher la cause propre, mais il y a une cause par accident. Donc une tuile vous tombe sur la tête quand vous sortez d'ici. Je prophétise pas. Hein. Une tuile vous tombe sur la tête quand vous sortez d'ici. C'est par accident qu'elle est tombée sur votre tête. Elle vous a fait mal. Non, c'est la tuile qui est tombée sur vous, qui vous a fait mal. C'est pas une cause propre. C'est accidentellement. Vous seriez sorti 5 minutes après, vous n'auriez pas reçu la tuile. Vous seriez sorti 5 minutes avant, vous n'auriez pas reçu la tuile. C'est très curieux, ça. Qu'est-ce qui commande ça? Une tas de choses diverses. C'est ça le Péraclidas. Vous ne saisissez pas, vous ne pouvez pas saisir. Parce que ça dépend d'une quantité de choses. Ne dites pas, c'est parce que je ne connais pas la cause. Un jour, je connaîtrai la cause du mal. Eh bien non, jamais. Parce que le mal naît de la potentialité. Et la potentialité restera toujours source d'accident. Même si vous connaissez parfaitement l'univers, il y aura toujours du contingent. Parce que l'univers est matériel. Et parce que l'univers est matériel, il y aura toujours possibilité de fissures. l'insipidité du mal. Alors, une fois qu'on a dit que la cause du mal était l'accident, saint Thomas va regarder ce qui se voit aisément, vous dit-il, dans les rites du physique. C'est très important, ça, dans les rites du physique. En effet, alors je vous lis saint Thomas, en effet, de ce mal qu'est la corruption de l'eau, la cause et la vertu active du feu, celle-ci, certes, ne tend pas principalement et proprement à la non-existence de l'eau, mais elle tend principalement à introduire la forme du feu dans la matière, ce qui nécessairement va de pair avec la destruction de l'eau. Et ainsi, c'est par accident que le feu fait que l'eau n'existe plus. Prenez l'eau qui est dans le bois humide. L'eau disparaît dans le bois humide quand le bois se met à brûler. Ce qui ne peut pas coexister en même temps, la chaleur et le froid. Ce sont deux contraires qui s'expulsent. Et donc si le feu gagne, mais si les pompiers ne sont pas là, parce que les pompiers, par définition, amènent de l'eau en quantité pour faire que jamais le feu gagne. Mais il y a une lutte entre l'eau et le feu. Quand vous avez assisté à des pompiers qui essaient d'arrêter un incendie, vous voyez très bien la lutte qui se fait. À un moment, on dit, ça y est, c'est la victoire, l'eau l'emporte. Puis, de nouveau, un coup de vent, le feu l'emporte. c'est le mal physique. Dieu créant un monde physique, sait, dans sa sagesse, que ce monde physique implique le mouvement. Toutes les réalités physiques sont toujours en mouvement. Il n'y a pas de repos dans le monde physique. que la mer, c'est la règle personnifiée. En face de la mer, le gosse ne prendra pas la confiture. Mais si la mer est absente, en haut, elle est montée. Le petit gosse dit ça à son petit frère. Elle est en haut. On peut y aller. On peut y aller. Alors on prend une chaise. On monte sur la chaise. Puis on ouvre à l'étage supérieur le pot de confiture. On voit très bien. On est séduit par le pot de confiture. Depuis déjà plusieurs jours. On tournait autour comme attendait le bon moment. C'est très prémédité. Et tout est prêt, très prémédité. Et on a ordinairement un petit complice. Et là, on se met à prendre la confiture. Puis on entend du bruit. Alors vite, on remet la confiture. Puis on reprend une situation. On voit très très bien ça. La séduction du bien sensible, passionnelle. On sait très bien, dans le fond de sa conscience, que c'est pas bien. C'est contraire à la volonté de maman. On n'aurait jamais fait ça devant elle. Non, jamais. Et si la mère s'aperçoit de quelque chose, on se cache le plus qu'on peut. Et si elle nous dit ouvertement, on est tout confus, on avoue. Si on est encore un bon gosse, jusqu'à avouer, déjà quelque chose, mais si on est un mauvais gosse, ça peut arriver. On est habitué. On dit non. On dit. Alors on ajoute à la délectation de la confiture, c'est pas très grave, le mensonge, ce qui est beaucoup plus grave. Vous voyez comment un péché engendre un autre péché. Comment il y a une dialectique à l'intérieur. Et on pourrait continuer. Et on verrait très bien. Comment, de fait, on aboutit à cette attitude de celui qui refuse de regarder la lumière. Donc, on voit bien que dans un péché, dans une faute de concupiscence, on est attiré par un bien sensible. Si donc, il en était ainsi que la volonté reçoive d'une façon nécessaire, une impression des réalités délectables qui l'attirent, à la manière dont un corps physique reçoit d'une façon nécessaire l'impression de l'agent, alors il en serait tout à fait de même pour les actes volontaires que pour les réalités physiques. Or, cela n'est pas ainsi, parce que aussi grande que soit l'attraction du bien sensible extérieur, la confiture, il est cependant au pouvoir de la volonté d'accepter ou de ne pas accepter. Le gosse attiré par la séduction de la confiture, s'il a à côté de lui un petit frère qui lui dit « Non, c'est pas bien, maman ne l'aime pas », il sera capable d'arrêter. S'il entend du bruit, il est capable d'arrêter. Dans l'ordre physique, il continuerait jusqu'au bout. Déterminé à tout nom, déterminé pleinement, nécessairement. Tandis qu'il avait du tout, il peut arrêter. Parce que s'il entend du bruit, c'est le gendarme. Ou bien le petit gosse à côté qui lui rappelle sa conscience, qui l'éveille à sa conscience. C'est pourquoi la cause du mal qui lui arrive parce qu'elle accepte, parce que la volonté accepte, n'est pas le délectable lui-même qui la meut, mais plutôt la volonté elle-même. Ça, c'est très fort. En réalité, vous êtes attiré par la confiture, c'est sûr. Mais la volonté veut ce n'est pas la confiture qui vous attire. C'est votre volonté qui est pervertie par la confiture. Et c'est pour ça que vous êtes capable d'arrêter. C'est la volonté elle-même. Laquelle volonté est cause du mal selon les deux modes précités, c'est-à-dire et par accident et en tant qu'elle est un bien déficient. Par accident, en tant que la volonté se porte vers quelque chose qui est un bien relatif, mais qui possède un lien avec ce qui est un mal pris absolument. On cherche ce bien, mais ce bien implique un désordre, le rejet d'un ordre, la volonté de la mère. Mais comme bien déficient, en tant qu'il faut considérer auparavant dans la volonté un certain défaut avant ce choix défectueux par lequel elle choisit un bien relatif qui est un mal pris absolument, ce qui apparaît clairement par ce qui suit.
Le plaisir et toute autre chose dans les...
matérialité humaine doivent être mesurées et réglées selon la règle de la raison et de la loi divine. C'est pourquoi ne pas faire usage de la règle de la raison et de la loi divine est prévu dans la volonté avant le choix des ordonnées. Je ne veux pas regarder la règle prudentielle qui est dans moi. C'est ce que fait le gosse. Il ne veut pas se rappeler ce que sa mère lui a dit, qui était sa règle de vie. Il ne veut pas le savoir. Il met ça entre parenthèses. Et puis il avance hardiment, uniquement se laissant guider par le plaisir. Mais la non-considération de la règle, c'est très joli comme exemple, comme comparaison, parce que ça nous aide beaucoup à comprendre le point de vue moral. Or, il ne faut pas chercher de cause au fait de ne pas faire usage de la règle précitée, parce que pour cela, la liberté même de la volonté suffit, pour laquelle elle peut agir ou ne pas agir. Et le fait de ne pas tendre en acte vers une telle règle considérée en elle-même n'est pas un mal, ni une faute, ni une peine, parce que l'âme n'est pas maintenue, ni ne peut tendre toujours en acte vers une règle de cette sorte. Mais elle reçoit premièrement la raison de faute, du fait qu'elle procède à un choix sans une considération actuelle de la règle. De même que l'artisan ne pêche pas parce qu'il n'a pas toujours la mesure, mais parce que n'ayant pas la mesure, il commence à tracer. Et de la même manière, la faute de la volonté n'est pas dans le fait qu'elle ne tende pas en acte vers la règle de la raison ou de la loi divine, mais dans le fait que, ne possédant pas la règle ou la mesure, elle procède au choix. C'est très fin comme analyse. Et de là vient ce que saint Augustin dit dans le livre 12e de la Cité de Dieu, que la volonté est la cause du péché en tant qu'elle est déficiente. Et il compara ce défaut au silence ou aux ténèbres, parce que ce défaut est une pure négation. On va essayer de comprendre, parce que ça c'est très très beau, et c'est très grand, et c'est très intéressant. Où est le point de départ de la faute? Où est le point de départ du dérèglement? Il prend l'exemple très simple de le tracé droit. Je pars de là, Je sais que ma main est branlante. Je vis, ma main est branlante. Je ne peux plus arriver à un tracé droit. Or, je dois le faire pour terminer une page importante. J'ai à côté de moi une règle. La faute n'est pas de regarder tout le temps la règle ou de ne pas regarder la règle. La faute consiste à ne pas regarder la règle et de ne pas m'en servir au moment où je dois tracer la ligne. C'est bien évident. Tout le monde peut comprendre ça. On va pas dire, pour être sûr de ne pas oublier la règle, mets-la dans ta main. Non, dans la main droite. Si tu es droitier, si tu es gaucher, mets-la dans ta main gauche. Parce que comme ça, au moment où tu écriras, où tu devras tracer la règle, tu diras, tiens, il y a la règle. Et immédiatement, tu la prendras. Parce que tu peux l'oublier. Vous pouvez très bien donner ce petit conseil. Quand ça se répète plusieurs fois, ah, j'ai oublié. C'est toujours ce qu'on dit. Ah, j'ai oublié. Mais quand vous deviez tracer la règle, Ça, c'est sûr. Et puis la défense augmente la délectation. Bon. Vous avez décidé de prendre ce pot de confiture. La décision volontaire de prendre le pot de confiture pour pouvoir en manger, c'est bien évident. C'est de la confiture de fraises. Elle est très bonne. Elle est excellente. On n'en sert que les grands jours. Aimer la bonne confiture, c'est bien. Mais il faut l'aimer in tempore opportuno. Il faut l'aimer les jours de fête. Il faut l'aimer quand celui qui possède les clés la donne. Il ne faut pas l'aimer n'importe quand et à n'importe quel moment. Donc, il faut que ce soit réglé. Vous avez le droit de prendre la confiture. À un moment donné, vous ne voulez plus regarder la règle et vous vous laissez prendre par la séduction qui commande tout. Vous voyez bien que vous avez eu une mauvaise volonté parce que vous n'avez plus regardé la règle. Vous l'avez oublié volontairement. C'est la volonté de la mère. Si vous aviez regardé cette volonté au bon moment, au moment où vous devez vous en servir, ça ne vous appartient pas. Donc c'est votre maman qui le donne. Elle est seule à pouvoir le donner. C'est son bien de la garder pour ça. Si vous aviez maintenu le regard sur la règle à ce moment-là, vous ne l'auriez pas prise. Donc, le mal est premièrement une volonté déficiente. Une volonté qui rejette la règle. Et cette volonté déficiente, elle est donc un bien qui implique une privation. Je ne regarde pas la règle. Je ne veux pas la regarder. Et donc, la cause du mal, c'est le bien, accidentellement. Si vous aviez une volonté parfaitement réglée, elle considérerait la règle quand il faut la regarder. Et vous ne voulez pas, donc c'est votre volonté déficiente. Voilà où gît en premier lieu le mal. Vous voyez, c'est pour nous faire comprendre que le mal moral dans son cerveau. Et plus l'homme progresse, plus il utilise la nature. Et plus, d'une certaine manière, il la désagrège. Il y a une question pour moi fondamentale qu'on ne pose jamais. Quand on transforme la matière, est-ce qu'on coopère ou est-ce qu'on la désagrège ? Il y a un moment donné où on désagrège le monde et on ne coopère plus. Est-ce que la technique moderne, qui a une influence énorme, une efficacité prodigieuse, est-ce qu'elle est en train de désagréger notre univers ? Ou est-ce qu'elle coopère ? Parce que si la technique désagrège notre monde, elle le détruit. Et donc c'est l'homme qui détruit notre univers. Société de consommation. On ne voit que la consommation immédiate. On ne se demande pas si on coopère ou non avec la nature. Première question. Deuxième question. Alors là, elle est théologale. Elle était, tu vois, la réponse est théologique. Est-ce que sur notre univers, il y a des influences adverses ? Est-ce que sur notre univers, il y a des influences occultes ? Est-ce que sur notre univers, les démons peuvent agir ? Le philosophe ne peut pas répondre. Influences occultes. Le théologien doit se poser la question. Vous voyez, notre univers est un monde physique, matériel, qui est substantiellement en puissance. Et donc, que d'une certaine manière, une cause efficiente spirituel, comme est Lucifer, comme sont les mauvais anges, peuvent agir dessus sans limite. Dieu mettra une limite au pouvoir du démon, mais autrement, notre univers est malléable, transformable, j'allais presque dire infini. Sous les influences occultes, sous des influences lucifériennes. Et il est très difficile pour le philosophe, pour notre intelligence humaine, de manifester la limite où il y a des agrégations, où il y a des monstres. Dans le domaine vital, c'est plus facile. On peut dire que certaines expériences qui se font aujourd'hui dans le domaine génétique sont monstrueuses, donc détruisent le point de vue vital. Ça, on peut le dire. Du côté de la nature, c'est beaucoup plus difficile. Alors, c'est pas commode hein, de préciser le domaine où il y a coopération avec la nature. Et où il y a de fait des monstres qu'on fait. C'est très difficile de savoir à quel moment on détruit et jusqu'où on peut coopérer dans le domaine physique, dans le domaine vital. C'est un problème.